Une bête ovale protégée donc par sa solide carapace, la tête au carré se met aujourd'hui dans la peau des tortues pour explorer à la fois le monde terrestre et marin de ces créatures emblématiques qui sont apparues pour les toutes premières il y a plus de 200 millions d'années en même temps que les dinosaures. De la tortue d'eau douce d'Europe aux tortues qui peuplent les océans, dossier complet cet après-midi en partenariat avec la revue Nature La Salamandre et j'attends dès maintenant vos questions sur le site de l'émission. À la une de la science, la découverte de fossiles qui ferait remonter l'apparition de la vie sur Terre à 3,7 milliards d'années. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, des traces indirectes de vie découvertes au Groenland. Si elles sont confirmées, ça voudra dire que la vie est apparue seulement 800 millions d'années après la formation de la Terre. On vous explique dans un instant.
Et puis, nouveau rendez-vous en fin d'émission, comme tous les jeudis dorénavant, ce sera Santé Polémique, proposé par notre médecin Dominique Dupagne. Pour cette première chronique, notre docteur nous parlera de la dépakine et de la faillite du paternalisme médical. Stéphanie Texier réalise cette nouvelle tête au carré, préparé par Chantal de Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Tortue d'eau douce et tortue marine dans le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Julien Perrault de la revue La Salamandre et le biologiste marin Jérôme Bourgeat. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Julien Perrault, elle s'appelle la Cistude d'Europe. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé principalement à cette tortue d'eau douce?
Bah, c'est un animal extraordinaire qui fait partie de notre patrimoine naturel, que pourtant bien peu de gens connaissent et ont vu.
Bah oui, parce que pour l'avoir, il faut quand même se lever tôt ou bien choisir son
oui,
moment.
Oui, ou plonger dans des étangs couverts de nénuphars, mais c'est magique que cet animal soit parvenu jusqu'à nous. Et il faut qu'on en prenne soin.
Et on fera connaissance avec ce véritable sous-marin à propulsion solaire.
Exactement.
Qu'il faut protéger, tout comme les espèces marines, Jérôme Bourgeat, chez lesquelles on trouve d'ailleurs des championnes de la migration. Ce sont des animaux qui peuvent parcourir des distances incroyables. Hein.
Ah ouais, ça fait vraiment partie des grands migrateurs marins qui peuvent parcourir entre 100 et 1000 km et plus de 1000 km entre leur site d'alimentation et leur site de reproduction. Une distance qu'elles parcourent en moyenne en un petit mois, donc ça fait relativement rapide pour une telle distance.
Et on peut les suivre avec des balises, on va en parler avec vous. Vous travaillez sur la conservation de ces tortues. On se retrouve donc dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr en cliquant sur l'onglet contact de la tête au carré, et également avec le mot-clé l'attaque sur Twitter. Une équipe de chercheurs australiens pense avoir découvert au Groenland les plus anciennes traces de la vie sur Terre, cachées dans des feuillets de roches datés donc à 3,7 milliards d'années. Sylvain Bernard, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie. Vous allez donc nous éclairer sur cette découverte qui est annoncée partout comme étant extraordinaire. Alors ces roches en feuillets qu'on appelle également des stromatolites et qui viennent d'être analysées par ces scientifiques australiens, pourquoi est-ce qu'elles sont si intéressantes quand on cherche de traces de vie anciennes?
Bah, c'est intéressant ces roches parce qu'en fait c'est des structures relativement simples et facilement identifiables, en tout cas à l'œil nu. C'est des roches qui présentent des structures en dôme, qui peuvent être coniques, qui peuvent être arrondies, et qui sont constituées, comme vous le disiez, de lamination, donc de feuillets, d'alternance, de différentes phases minérales. Et les seuls équivalents actuels qu'on ait de ces roches, c'est des stromatolites qui se forment en association avec le vivant. Alors on ne connaît pas exactement la contribution du vivant pour la formation de ces roches à l'heure actuelle, mais on a toujours du vivant associé. Et comme ces roches, on les retrouve dans l'enregistrement géologique à peu près à toutes les époques, l'intérêt, c'est que quand on les trouve, bah, on peut essayer d'aller discuter de la nature biologique ou non de ces objets.
Ça veut dire que des stromatolites ne peuvent pas se former sans la présence d'êtres vivants, c'est ça que vous voulez dire?
Alors, à l'heure actuelle, en fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu, un gros débat suite à la découverte de stromatolites très anciens, il y a une vingtaine d'années. Il y a déjà eu un gros débat sur l'origine biologique ou non de ce type de roche, c'est-à-dire à nouveau des roches en feuillets qui présentent des laminations visibles à l'œil nu. Et en fait, pour le moment, c'est toujours pas très clair si la vie intervient vraiment pour former ces objets. En tout cas, dans le passé, si la vie est vraiment intervenue pour former ces objets ou s'ils ont pu se former de façon purement abiotique, c'est-à-dire sans faire intervenir le vivant du tout.
Et qu'est-ce qui permet à votre confrère Alan Nutman aujourd'hui d'affirmer que celles qu'il a trouvées là sont bien d'origine biologique?
Parce qu'en fait, ce débat, il n'est pas vraiment résolu. Et donc, il y a des partisans du tout vivant, c'est-à-dire toutes les stromatolites qu'on va voir dans l'enregistrement géologique et qu'on va retrouver, y compris les plus anciennes, sont forcément des preuves irréfutables de l'activité biologique. Ils ont été formés, ces stromatolites, par du vivant. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça, c'est une façon de nier tous les travaux qui ont été faits pour essayer de comprendre comment se formaient ces objets-là. Et malgré leur découverte qui remonte à plus de 100 ans, on ne sait toujours pas vraiment comment ça se forme. Il y a beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle qui travaillent sur des stromatolites, notamment des stromatolites actuels, qui se forment à l'heure actuelle, notamment en Australie. Et c'est toujours pas vraiment bien contraint, tous les processus à l'origine de la formation de ces structures.
Comment on arrive à dater justement ces roches, Sylvain Bernard ?
Alors ces roches, elles sont datées par des méthodes de datation radiochronologique. On regarde les isotopes qui sont présents dans ces roches. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez bien contraint. On connaît les temps de demi-vie de certains isotopes. On sait combien il y en avait au moment où la Terre s'est formée, et donc au moment où ces roches se sont formées. Et donc on peut remonter assez facilement et assez précisément à l'âge de ces roches. Donc là, pour le coup, au Groenland, toutes ces roches de la ceinture verte au sud du Groenland sont assez bien datées. On sait que c'est vraiment des roches qui ont 3,7 milliards d'années. Il n'y a pas trop de doute là-dessus.
Donc c'est sur l'origine biologique que la question est posée, hein.
Et voilà, parce qu'en soi, ces objets qu'ils ont vus, c'est des objets assez exceptionnels. Alors, ils sont évidemment pas formidablement beaux, parce qu'il y a eu une histoire géologique compliquée qui les a altérés. Mm-hmm. Mais en soi, c'est des objets qui font quelques mètres seulement. Hein, les affleurements font quelques mètres. Ces objets font quelques centimètres. C'est 1 à 5 centimètres de hauteur seulement. Mais c'est des objets qui ressemblent en tout point, en tout cas de par leur structure, aux stromatolites qu'on juge étant fabriqués par le vivant à l'heure actuelle.
Donc c'est
troublant, c'est vraiment des objets très troublants, parce que si c'est confirmé que ces stromatolites sont d'origine biologique, effectivement ça veut dire que la vie existait déjà à cette époque,
oui.
Et probablement qu'elle existait un peu avant, parce que dans les stromatolites actuels, tout du moins, on n'a pas un seul type de micro-organisme, on a vraiment une diversité de micro-organismes qui participent, ou du moins qui sont impliqués dans la fabrication de ces objets.
À quoi ressemblait la planète Terre il y a 3,7 milliards d'années au moment où ces roches se formaient ?
Alors la planète Terre, elle était complètement différente, hein. L'atmosphère également, c'était complètement différent. Il n'y avait pas de vie sur les continents, c'est-à-dire il n'y avait pas de forêt. Les océans, leur chimie aussi était complètement différente. Dans l'atmosphère, il y avait probablement beaucoup plus de CO2, de CH4 qu'à l'heure actuelle. Il faisait probablement aussi beaucoup plus chaud. Donc c'était vraiment des conditions qu'on connaît plus à l'heure actuelle à la surface de la planète. Mais c'est pas forcément des conditions qui étaient inhabitables. Il y avait de l'eau liquide et il y avait des sources d'énergie, notamment le soleil, mais pas que. Et donc il est très possible que la vie soit apparue à ce moment-là. Maintenant, il reste à le démontrer. Et l'observation de stromatolites, c'est une avancée vers cette démonstration, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, à nouveau, l'observation de stromatolites prouve pas en soi que le vivant existait et que c'est le vivant qui a construit ces objets.
Donc vous êtes quand même très réservé, hein, par rapport à la proposition de ce scientifique publié quand même dans Nature, hein. Donc vous êtes prudent.
Bah voilà, ouais, c'est ça. C'est plus une histoire de prudence, parce qu'en fait il y a déjà eu beaucoup d'affirmations. C'est un peu la course à qui va trouver les plus vieilles traces du vivant à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup d'arguments qui en fait sont souvent nécessaires, mais pas suffisants. Et donc. Pour le moment, ça reste à prouver. Disons que ces objets sont vraiment troublants, ils sont vraiment jolis. Malgré tout, alors ils n'en parlent pas vraiment, ces auteurs, mais il n'y a pas forcément de matière organique associée. En tout cas, pour le moment, ils n'en ont pas décrit. Et si c'était vraiment des tapis microbiens qui étaient associés à la formation de ces objets, on pourrait peut-être retrouver des restes qui permettraient d'avancer un peu plus sur la compréhension de ces objets, pour déterminer un peu plus précisément, de façon un peu plus rigoureuse, leurs origines. Là, pour l'instant, ces auteurs, ils se cantonnent à des arguments géométriques. Alors, c'est ce qui est beaucoup fait, c'est comme ça que ces objets sont décrits par énormément d'auteurs, hein, sont décrits, sont classés, classifiés. Mais étant donné qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas exactement comment ces objets se forment, pour moi, il apparaît compliqué de conclure directement suite à l'observation de ces objets.
Bon, c'est ce que fait l'auteur, lui, en tout cas.
Par la vie, et que donc la vie existait.
Si jamais on s'amuse à y croire, à la présence de vie il y a 3,7 milliards d'années, qu'est-ce que ça change concernant son apparition sur Terre ou ailleurs ?
Bah, pour le coup, si la vie est vraiment apparue il y a 3,7 milliards d'années, voire un peu avant, ça veut dire que la vie est apparue très très tôt dans l'histoire de la Terre, notamment juste après l'épisode du grand bombardement du grand bombardement tardif qui a longtemps été vu comme complètement stérilisateur, qui aurait dû stériliser toute la surface. On voit encore hein, des traces de ce grand bombardement quand on regarde la Lune. Hein, la majorité des cratères d'impact datent de cette époque, c'était il y a 3,9 milliards d'années. Et donc si la vie a existé il y a 3,7 milliards d'années, c'est qu'elle a pu apparaître très très vite entre cet épisode drastique et ces structures qu'ils ont observées. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, si la vie est apparue sur Terre il y a 3,7-3,8 milliards d'années, elle a très bien pu aussi apparaître sur Mars, par exemple, qui, il y a 3,7-3,8 milliards d'années, présentait des caractéristiques très similaires à celles qui existaient, enfin, à celles de la Terre à la même époque. Ce qui veut dire que bah, si la vie est apparue sur Terre, elle a très bien pu aussi apparaître sur Mars à la même époque, et donc ça relance complètement la recherche de traces de vie. Alors ça relance, il n'y avait pas forcément besoin de la relancer, hein, mais ça redonne une motivation supplémentaire pour aller chercher des traces de vie sur Mars, d'autant que Mars est une planète qui n'est pas du tout active tectoniquement, et qui donc a préservé à sa surface des roches très très vieilles, contrairement à la Terre, hein, où la majorité des roches très anciennes ont été recyclées, transformées. Sur Mars, on a encore beaucoup, beaucoup de ces roches très anciennes. Et donc, il est très possible qu'on puisse aller retrouver un jour, sur Mars, des formes de vie, ou en tout cas des preuves que la vie existait à cette époque-là. Mmh.
Sylvain Bernard, merci beaucoup. Donc, étude parue dans la revue Nature et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. En tout cas, nous, on va en discuter avec vous la semaine prochaine. On va consacrer une émission entière aux premières traces de vie sur Terre. Merci à vous.
Merci
Axel.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un petit ptérosaure dans la cour des grands, alors que ces reptiles qui vivent autant des dinosaures sont plutôt connus pour être des géants des airs, pouvant atteindre plus de 10 mètres d'envergure. Eh bien, le nouveau venu, qui a été découvert sur une île de Colombie-Britannique, fait la taille d'un chat. Identifié grâce à un os fossile de son aile et d'une vertèbre, il mesure environ 40 cm de haut et 1,5 m de large, aile déployée. La découverte d'un spécimen si petit vient élargir encore la diversité de taille et de forme parmi les animaux du Crétacé tardif il y a 77 millions d'années. 60% des réserves d'eau souterraines du sud de l'Inde sont impropres à la consommation humaine. Le bassin indo-gangétique qui couvre une grande partie du Pakistan, le nord de l'Inde et la quasi-totalité du Bangladesh approvisionne quotidiennement plus de 750 millions de personnes en eau. Malheureusement, une étude publiée dans Nature Géosciences montre que les eaux du bassin sont trop salées avec des concentrations toxiques d'arsenic. L'arsenic est naturellement présent dans de nombreuses sources potables, mais il grimpe en Inde à des niveaux dangereux avec l'utilisation d'engrais et l'exploitation minière. Et puis, pour terminer en images, la NASA a dévoilé hier une vidéo spectaculaire de trois ouragans filmés mardi depuis la Station Spatiale Internationale. Les images montrent les ouragans Madeline et Lester qui se dirigent vers Hawaï dans le Pacifique et l'ouragan Gaston qui survole en ce moment l'océan Atlantique. Trois phénomènes climatiques particulièrement imposants et qui ont lieu en même temps, hasard du calendrier météo. Madeline est classée tempête tropicale de catégorie 3 avec des rafales allant jusqu'à 185 km/h et Gaston, dans la même catégorie, transporte des vents mesurés jusqu'à 195 km/h. Allez, la tête au carré dans la peau des tortues dans un instant.
Approche-toi, bébé, accroche-toi. Accroche-moi, les baisers, accroche-moi. Accro à ta bouche, je suis croque de toi. Ça fait boum, je craque quand tu me dis tout. Pas que c'est si doux. Oh là là, c'est si doux, 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 doux. C'est si doux. Oh là, c'est si doux, 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 doux. Allez, danse, danse, danse autour de moi. Et je danse, danse, danserai pour toi. Mon corps qui se frôle, qui se colle, s'entremêle.
et des Brigitte.
La tête au carré sur France Inter.
Et cet après-midi, un dossier tortue marine et tortue terrestre, tortue d'eau douce, en l'occurrence avec la revue Nature La Salamandre. Mes invités, Julien Perrault, vous êtes donc le directeur et rédacteur en chef de cette revue La Salamandre, et Jérôme Bourgeat, vous êtes chercheur en biologie marine, spécialiste en biologie de la conservation, et vous êtes responsable du laboratoire halieutique méditerranéen de l'Ifremer à Sète, à signaler également ce livre de photos que vous avez publié avec Hendrik Sauvigné aux éditions Les Regards du Vivant, qui est magnifique, qui s'appelle Des tortues et des hommes voyagent au cœur de l'océan Indien. Vous avez travaillé à La Réunion jusqu'à l'année dernière, hein, ça y est.
Ouais, je suis rentré il y a à peu près un an en métropole, en France métropolitaine.
Vous avez laissé toutes vos tortues marines derrière vous ?
Eh ben, elles sont toutes restées non seulement à La Réunion, mais aussi dans les îles Éparses, au Kenya, en Tanzanie, aux Seychelles, un petit peu partout dans cette zone qui est totalement extraordinaire pour ces espèces.
En Méditerranée, vous en avez quelques-unes quand même.
Il y en a quelques-unes. Il y en a d'ailleurs une qui est venue pondre, phénomène extrêmement rare dans le Var, il y a encore quelques jours. Là.
Donc sur une plage du Var
hein. Oui, c'est ça, une tortue kawane.
En plein été, là,
c'est un événement complètement extraordinaire. Je n'ai pas souvenir de quand était le dernier, mais il ne remonte pas l'année dernière, il remonte à plusieurs années, donc c'était un bon signe.
On peut imaginer que cette tortue soit née dans le Var, justement, ou pas ?
Si on suit la logique de cette capacité qu'ont les tortues à revenir pondre là où elles sont nées, effectivement, c'est peut-être une ponte qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Et elle serait revenue à son tour poser ses œufs sur cette même plage.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois qu'on l'observe sur cette plage.
Alors, cette tortue-là, alors, je ne sais pas...
Parce qu'elle devrait venir pondre régulièrement, j'imagine.
Bah, logiquement, les tortues, elles viennent pondre tous les 3 à 5 ans en moyenne. Donc, elles ne viennent pas pondre tous les ans. Mais si c'est sa première ponte, donc c'est la première fois qu'elle revient.
Effectivement.
Donc effectivement, c'est donc une jeune tortue femelle. Ouais. Et sinon, peut-être tout simplement, on a raté les pontes précédentes, les années précédentes.
Julien Perrault, avec les questions des auditeurs, hein, qui nous rejoignent déjà sur franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque, sous la carapace d'une tortue d'eau douce, est-ce qu'on peut observer à quelques détails près la même chose que sur la carapace d'une tortue marine ?
Oui, à quelques détails près, bien sûr, c'est des animaux qui sont très proches. Le groupe des tortues est un groupe assez extraordinairement... j'entends, c'est le même plan de base. Hein.
Ouais.
Donc, c'est une carapace osseuse avec deux grandes plaques. La plaque ladossière qui est fixée vraiment solidement au reste du squelette. Mm-hmm. Une plaque ventrale. Les deux plaques qui sont couvertes d'écailles, qui sont reliées par du cartilage. Et puis après, ben voilà, il y a toutes sortes d'adaptations et toutes sortes de stratégies de vie. Et c'est vrai que moi, je me suis particulièrement intéressé à cette cistude, qui est un animal extraordinaire qui vit encore en France, dans certaines régions, qui a beaucoup régressé, mais voilà, qui est l'objet de plusieurs projets de restauration et de réintroduction.
Oui, c'est ce que dit Paul. Hein, les cistudes qu'on trouve dans nos contrées disparaissent. Les mares, les zones humides asséchées sont-elles les seules causes ? Alors, on peut déjà parler justement des conséquences
alors, c'est vrai
de ces disparitions.
La cistude est une espèce, on dit une espèce parapluie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un animal qui a des exigences très vastes, c'est-à-dire que les adultes aiment vivre idéalement dans des étangs assez chauds, assez ensoleillés, parfois dans des rivières. Les jeunes, dans des plus petites mares très très riches en végétation, pour ne pas se faire dévorer, parce que quand on est une petite tortue et qu'on a la carapace molle, il faut faire attention.
Ouais.
Et puis, en fait, les œufs sont pondus sur des terrains très secs, sur des buttes ou dans des prairies qui doivent être très ensoleillées pour que l'incubation puisse bien se dérouler. Donc, il faut à la fois du très humide, du très mouillé, et du très sec.
Ouais.
Et ça, ben, malheureusement,
c'est
de plus en plus rare.
De plus en plus rare, effectivement, aujourd'hui. Hein. Jérôme Bourgeat, du côté de nos tortues marines, celles qui arrivent à grandir sont quand même des miraculées, quand même, à la base. Hein, parce que pour arriver à l'âge adulte quand on est une tortue, il faut avoir eu beaucoup de chance, quand même, hein, sur sa route.
Je ne connais pas exactement les chiffres pour la cistude, mais en tout cas, pour les tortues marines, effectivement, l'écrémage est relativement important.
C'est incroyable. Hein, ouais.
Alors, c'est extrêmement difficile de savoir exactement combien de bébés tortues vont arriver à se reproduire à nouveau, mais les chiffres qu'on avance, c'est entre 1 sur 100 et 1 sur 1000 qui arrivent à son tour à maturité sexuelle. Essentiellement parce qu'elles servent de nourriture pour beaucoup d'oiseaux marins, comme des frégates par exemple. Mais ensuite sur les crabes, quand elles vont commencer à descendre la plage, quand elles sont sorties du nid. Et puis quand elles arrivent dans l'eau, bah, tout simplement tous les prédateurs marins, comme les mérous, les carangues, tous les petits requins côtiers.
Ouais.
Et il y a un écrémage extrêmement important. C'est pour ça qu'elles font cette nage frénétique dès qu'elles rentrent en mer, pour sortir de la bande côtière, qui est littéralement la zone de grand danger, pour récupérer le grand océan, où on a quand même moins de prédation et où elles ont plus de chances de se développer.
Julien Perrault, dans l'eau douce, est-ce que les dangers sont identiques ou pas ?
Oui, alors...
Les dangers de la mare.
En fait, le plus gros problème, c'est déjà qu'au moment où les œufs sont pondus, donc ça, je suis allé l'observer, observé en Brenne, dans l'Indre. C'était un spectacle assez magique. Ben, ce qui se passe, c'est que le soir, au début de la nuit, les cistudes, les mamans qui sortent de l'eau, qui cherchent un endroit favorable, elles creusent un trou, elles pondent leurs œufs, après elles repartent. Et puis malheureusement, que, voilà, le renard, le blaireau font leur course ensuite. Mmh. Et les sangliers aussi. Et on estime qu'il y a probablement qu'une ponte sur dix qui échappe déjà à cette première phase de prédation. Et ensuite, effectivement, au moment où les jeunes sortent, ça, en général, ça peut être en septembre ou au printemps suivant, parce que parfois les petits ils passent l'hiver encore dans le trou, bien qu'ils aient éclos. Là, évidemment, c'est le massacre. Et en fait, ces petites tortues, jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, elles sont extrêmement vulnérables.
Ouais. Pour répondre justement à cette question de Sinox sur le Twitter de l'émission, de quoi est composée la carapace des tortues, on va aller en Corse à Cupulata, dans un centre d'élevage de tortues, où s'était rendue Sophie Jovillard pour l'émission Échappée Belle sur France 5. Elle est en compagnie du vétérinaire Jérôme Pitorin.
Alors là, il y a une jeune tortue des Seychelles qui a une petite vingtaine d'années. Alors exceptionnellement, je t'invite à toucher, si tu l'as jamais fait, une tortue pour voir que sous cette carapace, il y a plein de choses. Tu vois ?
Je lui fais peur tout de suite.
Oui, elle vit. Hein, c'est un animal. Voilà. Et tu vois, regarde la carapace.
Elle est montée sur vérin, on dirait.
Voilà. Donc la carapace n'est pas du tout une structure morte. Non. Hein. D'où les problématiques quand justement, surtout en Corse, il y a des problèmes de débroussailleuses et autres dans les jardins, puisque la tortue vit à l'état naturel ici. Mais tu vois que ce sont des animaux qui apprécient énormément les caresses.
Elles sont vraiment là quand on la touche, elles sont vraiment nos caresses. Ah, c'est pas le moment de les déranger, celle-ci.
Ah non, alors là, c'est l'exemple de copulation chez la tortue, ce qui n'est pas quand même une mince affaire, puisqu'il y a cette carapace, comme on a déjà dit. Et chose particulière aussi dans le monde des tortues, c'est le seul moment où on entend vocaliser une tortue. Le seul moment où on les entend. Silence, silence.
Il n'y a pas de son chez les tortues.
Non.
Bon, il y a du boulot quand même pour les mâles, là. Hein.
Ah oui, parce que c'est pas facile. Hein.
On dirait un bruit de chèvre un petit peu aussi, hein. La copulation des tortues. Alors il faut que vous nous parliez de ça, Julien Perrault, parce que l'accouplement, c'est absolument épouvantable. Hein.
Alors chez les cistudes, en tout cas, c'est assez, c'est assez direct et
expéditif. Du côté du mâle, hein.
Du côté du mâle qui en fait s'accroche. Alors il a son plastron qui est, je sais jamais si on dit convexe ou concave, pour aider à son emboîtage dans le dos de la carapace de la femelle. Donc il a une forme qui aide un petit peu. Il est plus petit que la femelle, il a des pattes un peu plus longues. Et en fait, il s'accroche à la carapace et il se verrouille avec les quatre pattes très solidement. Et ensuite, avec sa tête, sa bouche, en fait, il persécute la femelle.
Jusqu'à la noyer. Hein.
Alors, c'est le risque parce que souvent, la rencontre peut avoir lieu dans l'eau. Et en fait, effectivement, la cistude, la femelle, le réflexe, c'est qu'elle essaie de sortir de l'eau parce que quand elle est dans cette situation, il se peut qu'elle n'arrive pas forcément à respirer. Et la suite de l'accouplement se déroule à terre ou en eau très peu profonde. Et voilà, ça peut même parfois durer plusieurs jours. Et disons que souvent, les femelles en sortent avec beaucoup de cicatrices. Ouais. Je ne sais pas si c'est pareil chez les
tortues. Alors, c'est ça, oui. Alors, la cistude, elle fait quelle taille à peu près pour avoir une idée précise?
Ça mesure. Une belle pièce mesure à peu près 20-25 centimètres de longueur.
Oui. Alors du côté des tortues marines, tortues des Seychelles, tortues luttes qui sont bien plus grandes évidemment.
C'est exactement la même approche, hein, c'est-à-dire
la même douceur masculine.
la différence près que l'accouplement va durer très longtemps sur les tortues marines, mais c'est la même chose. Le mâle va arriver grâce à ses griffes, il va s'accrocher sur le dos de la carapace de la tortue femelle. Il va commencer à s'accoupler et là il ne bougera plus. Ouais. Donc c'est la femelle qui pendant potentiellement des heures, va nager et le tracter. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a la compétition qui va se mettre en place. D'autres mâles vont vouloir venir piquer la place du mâle qui est en train de se reproduire.
Donc il faut se battre en plus.
Hein. En mordant le mâle qui est en train de se reproduire, mais aussi la femelle. Et souvent, il va tout simplement s'accrocher en plus sur le mâle qui lui-même est déjà accroché sur la femelle. Et la femelle va tracter finalement deux tortues en même temps, avec des risques de noyade potentielle qui peut y arriver sur ces espèces-là. Quoi.
C'est la morvage, quoi. Hein.
Le mâle a le beau rôle.
Oui, mais c'est quand même assez terrible.
Assez lourd.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de notre dossier tortue avec les messages sur le site de La Tête au Carré.
Down.
Sunset Lover. Petit biscuit à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h. Sur France Inter.
Dossier tortue dans la peau d'une tortue, c'est à la une du nouveau numéro de la Salamandre, la revue des curieux de nature qu'on ne trouve que par abonnement. Julien Perrault, salamandre.net.
Exactement, allez-y
vite.
Pas dans
les kiosques. Absolument. Et puis à vos côtés, Jérôme Bourgeat pour nous parler des tortues marines, puisque vous avez vécu à La Réunion pendant de très nombreuses années et vous vous occupez de conservation. On parlait hors antenne de taille absolument démesurée. C'est la tortue lutte qui remporte tous les suffrages.
Oui, c'est clairement la championne du monde de toutes les tortues marines.
C'est quoi, c'est 2 mètres d'envergure?
C'est plus de 2 mètres d'envergure de carapace, et ouais, surtout près plus d'une demi-tonne. Hein. Certaines peuvent atteindre même 600 kilos. Et quand on voit une bête comme ça monter sur la plage pour aller déposer ses œufs, qui sont relativement gros, un petit peu plus gros que les balles de ping-pong, on se sent complètement démuni et complètement dans un autre temps. C'est très très impressionnant.
Julien Perrault, puisqu'on parle de cette tortue d'eau douce, la cistude avec vous, elles sont apparues quand d'ailleurs sur Terre, les premiers fossiles dont on dispose?
Alors, les premiers fossiles de tortue, ça remonte au Trias, donc c'est le début de la grande radiation évolutive des reptiles. Et voilà, il y a eu... aujourd'hui, disons, la majorité des espèces sont aquatiques d'eau douce.
Ouais.
Et puis, il y a effectivement certaines tortues terrestres et puis 7 espèces de tortues marines.
Oui, 7 seulement
Ouais, c'est là la grosse différence avec les tortues terrestres ou d'eau douce, c'est qu'il y a extrêmement peu de tortues qui se sont adaptées au milieu marin, qui sont revenues vers 100-150 millions d'années, qui sont revenues
coloniser. Ah, c'est plus tard pour les tortues marines.
Oui, elles sont revenues
plus tard,
après dans le milieu marin pour coloniser ce milieu-là.
Alors parmi les records amusants, parce qu'on l'apprend aussi dans la Salamandre, le record de longévité, c'est la tortue géante des Seychelles. Elle s'appelait Esmeralda. Elle vit encore.
Elle vit encore.
Elle est née en 1771.
Voilà, ouais, exactement.
C'est incroyable ça. 245 ans.
Et il y en avait une très vieille aussi à quelques pas d'ici au Jardin des Plantes qui est décédée il y a quelques années. Ouais,
c'est ça,
exactement.
C'était Kiki qui est mort à l'âge de 146 ans.
C'est déjà pas mal. Hein.
Ce qui est pas mal du tout, effectivement. Allez, les questions des auditeurs. Paul demande, avec le réchauffement climatique, le sexe des tortues étant déterminé par la température, est-ce qu'on ne va pas vers un déséquilibre des sexes? Alors, Jérôme Bourgeat, d'abord, il faut nous expliquer ce phénomène parce qu'effectivement, sur les œufs, la température joue
comme
énormément.
La majorité des reptiles, que ce soit chez les crocodiles ou autres, la température d'incubation dans le nid va être déterminante pour le sexe. À partir d'une certaine température qui interviendra à un moment très précis de l'incubation, on aura plus de femelles ou plus de mâles. Et dans le cas des tortues marines, en fait, plus on va monter en température, plus on va avoir un shift vers les femelles. Donc si on se replace dans le contexte des changements climatiques, effectivement, qui dit augmentation de température moyenne, dit
augmentation du sexe féminin,
augmentation du nombre de femelles qui seront produites par les œufs. Or, dans une population, ce qui est important, hélas pour nous les hommes, c'est quand même les femelles. Donc on va aller vers une augmentation du nombre de femelles moyen dans l'ensemble de la population. Ce qui n'est pas forcément très bon, parce qu'un sexe ratio équilibré est quand même mieux pour une population, mais c'est moins grave que si c'était des mâles. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les autres impacts du changement climatique? Parce qu'un des principaux impacts, c'est l'augmentation du niveau des mers. Or, les tortues marines, leur habitat terrestre, c'est la plage. Donc là, la réflexion doit se faire sur comment ces espèces vont évoluer à l'augmentation du niveau de la mer pour aller coloniser de nouvelles plages. Est-ce que le timing sera suffisant pour que cette adaptation se mette en place? Une autre conséquence aussi simplement, c'est la dégradation des habitats qu'elles utilisent. Par exemple, des grands herbiers de phanérogame, ce sont des plantes terrestres qui sont adaptées au milieu marin, qui sont beaucoup mangées par les tortues vertes, et qui, elles, vont subir très fortement ce changement climatique. Là, toutes les questions autour du changement climatique et des tortues, en mon sens, est plutôt dans le côté habitat.
Oui, donc l'augmentation des femelles est un indicateur du changement climatique aussi?
Voilà, sauf qu'il faut qu'on soit en capacité de dire que l'augmentation de femelles qu'on voit est effectivement due à une augmentation du nombre de femelles dans l'eau, et pas tout simplement due à la population en global qui augmente, et nous on observe plus de tortues sur les plages.
D'accord.
Ça implique donc d'être en capacité d'évaluer le nombre de mâles qu'il y a. Or les mâles, ils sont tout le temps dans l'eau. Donc pour nous les scientifiques, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur les mâles, qui sont des animaux qui font, par exemple pour la tortue verte ou même la cavane, des 100 à 150 kilos, donc il faut aller les attraper. Donc on travaille beaucoup moins sur les mâles, on a beaucoup moins de recul que ce qu'on pourrait avoir sur les femelles actuellement.
Julien Perrault, la cistude habite donc les étangs, les mares, les fossés depuis maintenant des millénaires. Et c'est une bête que vous comparez à un sous-marin de poche.
Oui, parce qu'elle a des adaptations assez, assez fascinantes, je trouve, dans son anatomie. Parce que c'est vrai qu'une tortue, a priori, on imagine un truc plutôt, plutôt lourdeau, plutôt hémisphérique. Et déjà, la cistude, elle a une carapace qui est assez hydrodynamique, qui est beaucoup plus aplatie qu'une tortue terrestre. Elle a ses organes sensoriels sur sa tête qui sont vraiment regroupés à l'avant. Ça lui fait comme un espèce de petit périscope.
Elle peut renifler très très loin, d'ailleurs, des proies.
Oui, oui. Elle, de ce fait, elle est très bien adaptée aussi à rechercher des proies en eau trouble. Elle a des vessies lombaires à l'arrière du corps et des poumons qui lui permettent de réguler très précisément sa flottabilité, parce que ses vessies lombaires donc, peuvent se remplir ou se vider d'eau, et ses poumons évidemment aussi d'air. Donc là, elle arrive très précisément à ajuster sa trajectoire. Et puis surtout, ce qui m'a fasciné en les observant, c'est ses pattes. Quand on la voit marcher sur terre, effectivement, on est dans la fable de la fontaine, elle va lentement, relativement lentement, mais dans l'eau, ça devient des nageoires très très efficaces, palmées, aplaties, et finalement une cistude. Alors ça va peut-être pas aussi vite qu'une tortue marine, mais dans une mare, ça peut faire des bonnes distances. Ouais. Pour autant qu'elle ait assez de chaleur, et c'est ça tout le défi de la cistude, puisqu'elle vit sous des climats qui sont pas tropicaux, c'est que elle ne peut se mettre en activité que si elle a emmagasiné assez de chaleur. Et ça, c'est tout le défi de ces animaux, en particulier au printemps.
Les records de vitesse chez les tortues marines, Jérôme Bourgeat.
Alors, je ne sais pas si on a posé et qu'on a fait des records de vitesse, mais en moyenne, on a une bonne idée. Une tortue, sur une petite pointe de vitesse, peut facilement aller à 35 km/h.
Ouais,
ce qui est quand même relativement rapide. Et quand on est sous l'eau et qu'on voit une tortue et qu'on la voit déguerpir, on comprend bien qu'elle va à 35 km/h. Ça va très vite sous l'eau.
Super acuité visuelle aussi chez les tortues, hein, Julien Perrault.
C'est pas un aigle ou un lynx, mais c'est vrai qu'une cistude hors de l'eau, elle peut vous repérer à 20 ou 30 mètres de distance, en tout cas, ce qui est déjà pas mal. Et puis sous l'eau, elle a une paupière transparente qui est une configuration de l'œil, disons, qui est bien adaptée à la vision sous l'eau. Après, voilà, en général, elle vit en eau trouble. Donc, c'est vrai que son sens dominant sous l'eau pour trouver sa nourriture, c'est très probablement l'odorat.
Elle a trois paupières, c'est ça?
Oui.
Ouais. Caractéristique, donc, de la cistude?
Je crois que c'est le cas chez toutes les tortues.
C'est le cas de toutes les tortues.
Même
les tortues marines. Hein. Et c'est une grande nettoyeuse aussi. Et ça, c'est vraiment un rôle absolument prépondérant pour les écosystèmes.
Oui, métier d'éboueur peut paraître un peu ingrat, mais il est fondamental dans le fonctionnement de la nature et dans le recyclage. Et c'est vrai que les cistudes sont très opportunistes dans leur alimentation. Elles se nourrissent aussi bien d'animaux qu'elles capturent, de végétaux, que de cadavres de toutes sortes qu'elles nettoient très rapidement.
Françoise demande si les tortues de Floride, espèce exotique, menace justement les cistudes.
Oui, c'est bien qu'on en parle, c'est un gros problème. Les tortues exotiques, de manière générale, qui sont vendues en animalerie, qui sont très choues et toutes croquantes quand elles sont petites, eh bien, elles grandissent. Et à un moment donné, l'aquarium familial devient trop petit. Donc, pensant bien faire, on relâche ces animaux dans la nature, sans réaliser qu'en fait, c'est un gros problème, puisque des millions de ces animaux ont été importés en France. Maintenant, les tortues de Floride, on n'a plus le droit de les importer, mais il y a d'autres espèces exotiques qui le sont toujours. Et en fait, il y a des millions de tortues qui ont été relâchées dans la nature. Malheureusement, pour certaines, comme les Florides, elles peuvent se reproduire en France. Et c'est des espèces qui sont souvent plus compétitives que la cistude, malheureusement.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des millions de tortues de Floride
Alors, il y a des millions de tortues de Floride qui ont été importées en France. Heureusement, je pense qu'elles n'ont pas toutes fini dans la nature, mais il y en a certainement des centaines de milliers qui ont été relâchées comme ça.
Alors, pour les cistudes, justement, il faut des opérations de réintroduction et de conservation, précisément. On va voir ce qui se passe au lac du Bourget, en Savoie. Ça démarre d'abord dans les Deux-Sèvres, comme on va l'entendre dans ce reportage, pour terminer, justement, en Savoie. Extrait d'un documentaire de la chaîne TV8 Mont-Blanc.
La taille, le poids, l'empreinte digitale qui se trouve sur le cou. Chaque tortue fait l'objet d'une minutieuse observation. C'est en fait une véritable carte d'identité qui est constituée pour chacune de ces 41 tortues cistudes. Elles ont vu le jour et ont grandi au parc Zoo Odyssée dans les Deux-Sèvres.
On a un protocole assez précis, c'est-à-dire qu'on est obligé de ramasser les œufs dans les nids de ponte. Ensuite, on les met en couveuse et à la naissance, après, on les met en aquarium et on les élève et nourrit et on les chauffe. Et ça se passe bien. En général, à un an et demi, elles arrivent à peser jusqu'à 90 grammes comme on vient de peser tout à l'heure.
Depuis 2000, le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie cherche à les réintroduire dans leur milieu naturel. Direction le lac du Bourget, donc, pour ces tortues.
Julien Perrault, réintroduction, donc, ça marche bien?
Oui, ça marche bien. au bord du lac du Bourget, ça a été vraiment un grand succès, d'autant plus qu'il y a les milieux naturels qui ont été restaurés.
En Suisse également ?
Vous avez alors, fait ce Suisse, même type d'opération ? En Suisse, il y a deux projets de réintroduction qui sont en cours à Genève et à Neuchâtel. Mm-hmm. C'est encore trop tôt pour savoir si ça va marcher parce que les cistudes, il leur faut un certain temps pour atteindre l'âge de reproduction. Et puis en Alsace, il y a encore un autre projet de réintroduction qui est en cours avec des individus qui ont été relâchés à partir de 2014.
Mm. Jean nous dit, j'ai 67 ans, je me souviens que dans mon enfance, il était assez courant d'avoir une tortue d'Hermann, nous dit-il.
Oui.
Domestique qui se régalait des ravageurs du potager. Elle survivait à l'hiver en s'enterrant. Pourquoi ne pas relancer cette mode à une époque où l'écologie est de mise?
En fait, si on fait abstraction des tortues marines occasionnelles sur les côtes, avec la bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre tout à l'heure, il y a trois espèces de tortues continentales en France. La cistude qui est la plus répandue. Mmh. Il y a une autre tortue aquatique qui est très très rare, qui s'appelle l'émide lépreuse, qui est vraiment en voie de disparition. Il n'y a plus que trois petites populations près de la frontière espagnole. Et effectivement, la tortue d'Hermann, qui est donc une tortue terrestre, beaucoup plus ronde, de carapace, et qui vivait autrefois sur tout le littoral, le pourtour méditerranéen, dans la garrigue, qui devait être très abondante, et qui a énormément disparu à cause de l'urbanisation et des feux de forêt. Et actuellement, il n'en reste plus qu'une grosse, enfin une population dans le Var, dans le massif des Maures. Et voilà, à part ça, effectivement, on peut en trouver aussi en animalerie. Mais voilà, c'est une tortue qui est très menacée en France.
Allez, des tortues, nous passons aux mouches un instant avec Miossec. Et puis on se retrouve juste après pour parler là aussi de conservation des tortues marines avec vos messages que vous nous envoyez toujours sur franceinter.fr. Les mouches de Miossec et les tortues de la salamandre. La revue des curieux de nature et la salamandre.net si vous souhaitez vous abonner pour découvrir donc ce dossier consacré donc à la cistude d'Europe pour cette tortue d'eau douce. Et puis du côté des tortues marines, on parle des tortues et des îles. Ça, c'est un livre magnifique de photos. Voyage au cœur de l'océan Indien, Jérôme Bourjac, que vous signez avec Hendrik Sauvignet chez Regards du Vivant. Certaines photos donc à La Réunion ont été prises quasiment devant chez vous. Hein. Il suffit de sortir pour faire des trucs extraordinaires.
Hein. Ah, mais ça, c'est le propre de l'île La Réunion, hein, qu'on appelle aussi l'île intense, où effectivement on peut retrouver non seulement des tortues mais aussi des baleines à la bonne saison. Et une des anecdotes, c'est on a eu la chance d'avoir une ponte de tortue à La Réunion, parce que malheureusement il n'y a quasiment plus de ponte à La Réunion aussi. Et donc sur le suivi de cette ponte-là, on est parti avec Hendrik pour suivre les bébés tortues qui regagnaient le large pour faire des photos. C'était tellement rare comme événement. Et là on a eu cette chance extraordinaire de voir la maman baleine avec son baleineau venir aussi à la rencontre de cette tortue. Et donc il y a des photos de bébés baleines avec un bébé tortue. Donc c'est 20 grammes, en gros 20 tonnes pour la maman.
C'est ça.
Ouais. Les deux ensemble sur l'image, c'était un moment totalement magique.
Une question de Françoise, est-ce que les tortues marines et terrestres sont toutes protégées?
Alors pour les tortues marines, oui, elles sont toutes non seulement protégées,
mais rouge,
archi protégées, donc sur l'annexe 1 de la Convention de Washington et sur les listes rouges de l'IUCN. Pour les tortues terrestres, je pense qu'il y en a beaucoup, mais est-ce que toutes, je ne sais pas, je me retourne vers Julien.
Non, ce que j'ai lu, c'est que plus de la moitié des espèces de tortues terrestres ou d'eau douce sont menacées par les activités humaines à l'échelle de la planète, mais je pense pas qu'elles doivent pas être toutes protégées. En tout cas, la cistude et la tortue d'Hermann le sont, oui.
Ouais. Jacques demande si les tortues, la longévité des tortues est un handicap compte tenu justement des menaces qui pèsent sur ces animaux.
Alors déjà, c'est pas un handicap, c'est un élément essentiel vu la stratégie qu'elles ont mis en place, c'est-à-dire elles sont longévives, elles ont une maturité sexuelle tardive, c'est-à-dire qu'elles vont pas commencer à se reproduire avant 20 à 30 ans. Donc si elles vivent pas longtemps, finalement il y aura aucun intérêt pour la dynamique de la population. Donc oui, c'est essentiel qu'elles soient longévives. La question fondamentale qui y a derrière, c'est être en capacité de savoir combien il y a d'individus dans l'eau, quoi.
Ouais.
Et ça, toute la difficulté en termes de conservation repose vraiment sur cet aspect-là qui est loin d'être facile.
Jérôme Bourjac, comment va Germaine et ses camarades d'eau de mer?
Alors Germaine et ses...
Vous les baptisez toutes?
Alors ce qu'on profite de faire quand on fait de la science, et tant qu'à faire aussi faire de la science participative, ou en tout cas de faire de la sensibilisation autour de ces espèces-là, parce qu'on travaille beaucoup, nous l'Ifremer, avec un centre qui s'appelle Kélonia, qui a vocation, lui, à faire de la sensibilisation. Donc, quand on travaille sur un individu et qu'on le suit par satellite, on va avoir donc un trajet, autant aussi le faire parrainer par des personnes, par des écoles, par des étudiants. Ça aide à la sensibilisation autour de ces espèces-là.
Donc, on les baptise.
Donc on les baptise, et Germaine, Germaine, malheureusement, la batterie de la balise a stoppé, normal, au bout d'un certain temps.
Donc, on a perdu la trace.
Plus de nouvelles, mais je suis sûr qu'elle va extrêmement bien. Elle se trouve actuellement, ou elle se trouvait en tout cas, vers la région de Oman, donc dans le nord-ouest de l'océan Indien. Donc elle avait parcouru plus de... Elle était partie de la Réunion. C'était une tortue qui avait été capturée accidentellement par un palangrier. On a une très belle coopération avec les palangriers, souvent les pêcheurs. On les accuse de effectivement tuer beaucoup d'espèces qui sont pas ciblées par la pêche. À La Réunion, on a un partenariat extraordinaire où ces pêcheurs, qui sont souvent des jeunes, travaillent avec nous et ramènent ces individus qui sont capturés accidentellement. Donc ils sont sauvés. Et nous, on en profite pour faire de la science dessus.
On met des palangriers.
Alors c'est des palangriers, donc c'est des bateaux qui mettent à l'eau des lignes qui font plus de 1500 hameçons, plusieurs dizaines de kilomètres, donc c'est beaucoup, qui ciblent essentiellement les grands pélagiques. Hein.
Ouais.
Mais des fois, quand une
qui
tortue marine passe
filet.
Là, alors c'est pas un filet, c'est une ligne avec des hameçons, mais de temps en temps, quand une tortue passe, elle va venir mordre à l'appât, souvent du calmar ou une sardine, et là, elle se fait attraper à l'hameçon. Donc elles sont sauvées, entre guillemets, ramenées par le pêcheur, et nous, on en profite pour faire de la science. Et ces individus qui ont été capturés accidentellement par les pêcheurs palangriers de La Réunion, on a mis des balises argos dessus pour voir quels étaient leurs déplacements en pleine mer. On a eu cette surprise totalement extraordinaire. C'était des kawanes, des tortues kawanes juvéniles, de les voir traverser l'équateur. Donc l'immigration transhémisphérique, c'est relativement rare chez les grands animaux. Et aller se réfugier dans la zone de Oman, complètement au nord-ouest de l'océan Indien. Avec des migrations, certaines, de plusieurs milliers de kilomètres, voire presque plus de 10 000.
C'est la première fois qu'on pouvait suivre le trajet de tortue.
Alors dans l'océan Indien, pour cette espèce-là, à ce stade-là, oui, c'était la première fois qu'on a eu la chance de mettre des balises argos sur ces stades-là. Par contre, dans d'autres océans, on a déjà montré qu'elles faisaient des énormes migrations transocéaniques. Je pense par exemple dans l'océan Atlantique, on va traverser l'océan Atlantique pendant ces stades-là. Mais dans l'océan Indien, c'était la première fois qu'on voyait ça, et notamment un passage dans l'hémisphère nord, ce qui était totalement extraordinaire.
Donc vous avez vraiment des cartes avec évidemment le tracé lié au satellite.
Exactement.
Qui vous permettent de voir exactement comment ça se passe.
Alors après, on peut travailler différentes échelles, soit l'échelle individuelle, on va regarder le comportement de la tortue, on va voir qu'elle va trouver des habitats d'alimentation en pleine mer, par exemple, dans lequel elle va s'arrêter, elle va tourner. Mais on peut voir aussi ça à l'échelle un peu plus globale, en sommant l'ensemble de ces trajets satellites qu'on va avoir, et mettre en évidence des couloirs migratoires. Et ça, ces couloirs migratoires, c'est une notion extrêmement importante si on veut essayer d'améliorer la gestion de ces espèces. Parce que s'il faut mettre une régulation, par exemple, sur un système de pêche, plutôt que d'interdire une telle pêche dans l'ensemble de l'océan Indien, parce qu'elles vont circuler dans tout l'océan Indien, on peut commencer par cibler des zones où ce sont véritablement des couloirs migratoires pour ces espèces-là, avec un maximum d'interactions qu'il pourrait y avoir entre engins de pêche et tortues marines.
Qu'est-ce qu'on observe pendant les parcours donc, de ces milliers de kilomètres? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'elles marquent des pauses justement pendant ces migrations?
Alors non, enfin, je prends
un autre... Ça nage non-stop
hein. Un autre exemple, la tortue verte qui se reproduit donc, dans la majorité des îles du sud-est de l'océan Indien. Une fois qu'elle se reproduite, et donc elle part, elle va faire plusieurs centaines voire milliers de kilomètres pour rejoindre son site d'alimentation. Et là, c'est vraiment des trajets... pas rectiligne parce qu'elles sont influencées par le courant, mais extrêmement dirigées, extrêmement motivées pour aller rejoindre au plus vite le site d'alimentation. Il faut savoir qu'elle n'a pas mangé depuis le début de sa reproduction. Donc la motivation pour aller retrouver son site d'alimentation initial, se poser et réengranger de l'énergie pour la prochaine reproduction est extrêmement important. Et ça, c'est tout un travail qu'on est en train d'essayer de mener pour vraiment comprendre cette orientation et cette envie d'aller rejoindre un endroit très précis à une vitesse très rapide.
Comment on explique qu'une tortue soit capable de retrouver son lieu de naissance? Quelles sont les hypothèses avancées
par les scientifiques? C'est la grande question. Ce qui est certain, c'est qu'elles utilisent, comme beaucoup d'espèces d'oiseaux migrateurs, le champ magnétique. Ouais. Donc il a été mis en évidence qu'elles utilisent le gradient de champ magnétique qu'il y a tout autour de la planète pour s'orienter. Mais en le perturbant, ce champ magnétique, on s'est aussi aperçu qu'elles étaient en capacité de quand même retrouver une petite île qui est un tout petit caillou au milieu de l'océan. Donc ça veut dire qu'elles ont cette capacité à shunter de systèmes de navigation. Lorsqu'il y en a un qui est perturbé, elles vont en utiliser un autre. Et là, le mystère, il est un peu plus poussé. Alors, on avance des idées comme un gradient d'odeur sur la planète. Donc, il y a eu pas mal d'exemples qui ont été développés là-dessus. Et effectivement, une tortue marine, quand on la voit arriver près de la côte, va souvent sortir au coucher de soleil pour humer ce qui se passe. Et notamment, elles adorent les veloutiers, par exemple, qui sont des plantes qui vont faire des fleurs très, qui vont s'ouvrir que la nuit et qui sont très odorantes. Et c'est des sites où ces plantes-là se développent, qui sont extrêmement bons pour les tortues, puisqu'elles acidifient pas du tout le sable. Et c'est optimum pour le développement des œufs.
Donc, il y a une mémoire des odeurs.
Donc, il pourrait y avoir.
Qui permettrait à ces tortues de se
repérer. Il pourrait, par exemple, avoir une mémoire des odeurs, un peu comme le saumon, qui va avoir une mémoire des particules chimiques qui sont dans l'eau, qui va lui permettre de se guider et d'affiner.
C'est prodigieux, parce que là, on parle de milliers de kilomètres quand même.
Milliers de kilomètres.
Donc, saumon, c'est pareil. Hein.
Les saumons, c'est pareil.
Ouais. Cette question de François, la pollution des océans par les divers déchets en plastique qu'avalent les tortues, est-ce que c'est la principale menace sérieuse justement sur ces espèces marines?
Principale, je ne sais pas. C'est une des menaces actuellement relativement importantes. Sur ces captures accidentelles qu'on voit à La Réunion, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, quand on les met en bassin et qu'on récupère les fesses, on s'aperçoit que quasiment 80% de ces tortues ont des macro-déchets dans les fesses. Et on a beaucoup de ces tortues-là qui ont des occlusions intestinales et qui, si cela arrive en pleine mer, si elles ne peuvent pas être opérées, vont effectivement mourir. Des sacs plastiques, par exemple, vont provoquer la suffocation. Quand elles vont naviguer, elles vont aller essayer de manger comme une tortue lutte un sac plastique qui pourrait ressembler à une méduse, elle va tout simplement suffoquer et mourir noyée. Donc effectivement, c'est un problème extrêmement important à prendre très au sérieux. Le quantifier, c'est déjà beaucoup plus difficile, parce que ça arrive très souvent en pleine mer. Donc il est très difficile de dire que c'est plus problématique que la pêche ou la prédation.
Merci beaucoup à tous les deux. Tour d'horizon donc entre les tortues d'eau douce terrestres et les tortues marines grâce à vous. La salamandre.net donc pour le dossier sur les cistudes. Et puis des tortues et des îles, voyage au cœur de l'océan Indien que vous signez Jérôme Bourgeat avec Hendrik Sauvignon chez Regards du Vivant. Merci à tous les deux.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Voilà, Dominique a eu sa petite tortue aussi quand il était petit, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure en antenne. Dominique, vous nous parlez pour ce premier rendez-vous de la Dépakine à l'occasion de la proposition par Marisol Touraine de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes de ce médicament.
Oui Mathieu, parce que cette nouvelle affaire, ça pourrait bien être un scandale médical et pas vraiment un scandale pharmaceutique.
C'est-à-dire?
Bah Mathieu, vous connaissez la recette du scandale pharmaceutique, hein, façon Vioxx ou Mediator. Vous avez le méchant et cupide laboratoire qui fait tout pour dissimuler les effets secondaires de son médicament. Il soudoie les experts, les agences et il invite les médecins au soleil pour vanter son produit. Ça, c'est du classique. Mais dans le scandale médical, ce sont les médecins en fait qui trahissent la confiance de leurs patients. L'exemple le plus célèbre, on n'y pense pas souvent, c'est le conseil de coucher les bébés sur le ventre qui a été donné par les médecins ou maman entre 1975 et 1995. En fait, on sait maintenant que ce conseil stupide qui reposait sur rien de solide a été à l'origine du décès de milliers de bébés. C'est un pur scandale médical, il n'y a pas de laboratoire dedans.
Et ce serait le cas donc pour la Dépakine aussi?
Et bien plus ça va, écoutez, plus j'en suis persuadé. Il y a le laboratoire Sanofi qui commercialise la Dépakine, qui déclare qu'il a insisté sans succès auprès de l'agence du médicament pour que l'information officielle tienne compte des nouvelles données inquiétantes sur les dangers de ce médicament chez la femme enceinte, et je suis tenté de le croire.
Mais pourquoi? Vous défendez les labos aujourd'hui?
Mais oui, ça paraît bizarre,
Dites donc,
vous arrive. Il faut se mettre dans la peau d'un laboratoire. Ils ne veulent pas des femmes enceintes. C'est un tout petit marché. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Ce ne sont que des emmerdements. Si les laboratoires pouvaient rédiger eux-mêmes les notices des médicaments et la formation pour les médecins, ce qu'ils ne peuvent pas faire, hein, mais ils contre-indiqueraient systématiquement leurs médicaments chez les femmes enceintes pour éviter les problèmes, les procès, tout ça. Et donc, la dépakine, qui est un anti-épileptique majeur, hein, reconnu universellement comme tel, eh bien, il peut se passer largement du marché des femmes enceintes. Et en fait, je pense qu'on va découvrir que finalement, ceux qui ont le plus traîné des pieds pour fournir une information loyale et complète aux femmes enceintes, eh bien, ce sont avant tout les experts neurologues, et notamment ceux des agences de santé qui font les recommandations. Et puis aussi, bien sûr, les médecins prescripteurs qui ont donné le médicament aux femmes. Et si procès il y a, ça sera sans doute celui du paternalisme médical, qui reste quand même très ancré dans nos pratiques. Hein. En France, les médecins décident de ce qui est bon pour les patients, et ensuite seulement, ils leur apportent une information plus ou moins tronquée pour appuyer ces stratégies qu'ils proposent. Le patient est traité comme un enfant, il n'est pas associé au choix qui concerne pourtant au premier chef. Hein. Et pour comprendre l'affaire de la dépakine, il faut savoir que les experts neurologues, qui étaient confrontés depuis toujours au drame des femmes épileptiques qui arrêtaient d'elles-mêmes leurs médicaments, elles n'avaient pas envie de prendre des médicaments quand elles étaient enceintes, et ça faisait apparaître des crises d'épilepsie qui pouvaient avoir des conséquences absolument dramatiques. Et donc, inconsciemment, ils ont minimisé les risques du médicament dans les notices et dans l'information pour persuader les femmes enceintes, soi-disant pour leur bien finalement, de continuer leur traitement. Or, franchement, ce paternalisme, c'est plus possible au XXIe siècle. Les femmes avaient le droit de savoir quels risques elles faisaient courir à leur bébé, et si Marisol Touraine veut trouver des responsables pour financer son fonds d'indemnisation, ben elle va sans doute devoir se tourner vers les experts dépendants de son ministère. Les autorités sanitaires n'ont pas vraiment compris l'importance d'associer les patients aux choix qui les concernent. Et il reste un exemple caricatural. Mathieu, je ne vous le souhaite pas, mais si vous souffrez un jour d'un cancer, savez-vous qui sera invité aux réunions où on va choisir votre traitement, déterminer ce qu'on va vous donner?
Non, pas vraiment, non.
Eh bien, c'est facile. Tout le monde, sauf vous. C'est tout un symbole.
Voilà, Santé Polémique, Dominique Dupagne, tous les jeudis dans La Tête au Carré.